encore ce matin, Timothée, pour nous parler. Et voilà, donne-nous de chacun personnellement d'être touché là où on a besoin d'être touché par ton message et par ta parole, Seigneur. Amen.
Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Je suis content de me retrouver là ce matin. Et je vous emmène faire un petit voyage dans des textes bibliques ce matin. On va commencer avec un livre qu'on lit pas souvent, le prophète Sophonie. Voilà, on va lire au chapitre 2 et puis un petit passage au chapitre 3 aussi. Ensuite, on lira Matthieu 5. Et après, on continuera dans 1 Corinthiens. Un petit bout d'Ancien Testament, un petit bout d'Évangile, un petit bout d'Épître. Comme ça, ça fait une salade composée, équilibrée. Alors, Sophonie, chapitre 2. En deux mots. Sophonie est un prophète qui a vécu dans le royaume de Juda. Donc, à un moment, Israël a été divisé en deux royaumes. Il y avait la capitale au nord, Samarie, la capitale au sud, Juda, Jérusalem, avec le temple et tout. Et donc Sophonie, il a été un prophète dans le royaume du sud. Et en gros, il a annoncé au peuple il y avait le jugement de Dieu qui allait s'approcher parce que ils étaient devenus corrompus, ils étaient devenus mauvais, ils rendaient un culte à des idoles un peu partout, parce qu'ils pratiquaient toutes sortes de triches et d'abus et d'oppression. Il y avait un roi, Josias, qui avait essayé de faire des réformes pour ramener le peuple un peu dans le droit chemin, mais ça n'avait pas marché. Et donc voilà dans le contexte un peu du ministère de Sophonie qui a annoncé la déportation. Et en même temps, il avait des paroles aussi d'espérance pour après. Donc on va lire au chapitre 2. Rassemblez-vous et recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que ne survienne le décret et que le jour du Seigneur ne passe comme de la paille, avant que n'arrive sur vous la colère ardente de l'Éternel, avant que n'arrive sur vous le jour de la colère. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez ses ordres. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, et peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Et un peu plus loin, au chapitre 3, au verset 11, je lis, donc ça c'est la restauration. Après, qu'est-ce que Dieu va faire ? En ces jours-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi, car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil, et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude, ils ne diront pas de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée, quand ils auront leur pâture et leur gîte, sans que personne ne les dérange. Voilà, donc première lecture. Deuxième lecture, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, texte très bien connu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, et puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, heureux serez-vous lorsque on vous insultera et qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi, dit Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et enfin, une dernière lecture, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 26 à 31. Donc là, c'est Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe. Considérez, frères et sœurs, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon ce monde, ni beaucoup de puissants ou de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles pour ce monde afin de confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles que l'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice, sanctification et rédemption, afin qu'il soit écrit, afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Trois textes, en fait, qui pointent du doigt la même chose, le même thème. Et c'est un des jeunes du groupe de jeunes qui m'a soufflé un peu ce thème. On lisait dans Jacques ce passage où notre frère Philippe avait fait une méditation sur « Humiliez-vous devant le Seigneur ». Voilà. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Venez vous humilier devant le Seigneur. Et un des jeunes réagit en disant « Mais en fait, l'humiliation, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de... Moi, je veux bien venir voir Dieu, mais je veux pas... Et je trouve ça très intéressant comme réaction. Et les textes du jour, c'est pas moi qui les ai choisis, c'était les textes du jour, j'ai regardé par curiosité, pointaient tous du doigt sur cette question-là. Donc on voit Sophonie qui exhorte les humbles du peuple à tenir bon dans leur humilité et à ne pas succomber à l'orgueil. Et en leur donnant cette espérance qu'un jour, quand Dieu va restaurer le pays, il va en faire un pays où en fait il n'y aura plus que des humbles, il n'y aura pas d'orgueilleux, il n'y aura pas de présomptueux, il n'y aura pas d'arrogants. Et semble-t-il dire, quand on n'aura que des personnes humbles dans le pays, la violence, la triche, la corruption partira aussi. Intéressant. On lit dans le sermon sur la montagne de le Christ qui commence par dire « Heureux les humbles de cœur ». Et on voit toute la liste des béatitudes où ce sont les doux qui vont posséder le monde, ce sont ceux qui œuvrent pour la paix, ce sont ceux qui ont soif d'une vraie justice, ce sont ceux qui cherchent à faire miséricorde, à pardonner. Encore une fois, en discutant avec les jeunes, on les a exhortés une fois à demander pardon quand on a fait du mal. Et il y en a un qui a répliqué, mais dans mon lycée, si je demande pardon, je suis mort. Si on montre de la vulnérabilité, de la faiblesse, je suis fichu. Et de se dire, bah oui, quand on lit les béatitudes, Jésus qui dit « Heureux les humbles, les doux, ceux qui pardonnent, ceux qui partagent, ceux qui veulent de la... » C'est un monde de bisounours. C'est pas le fort, c'est pas l'arrogant, c'est pas celui qui va... mater les autres par des paroles bien senties. Et puis enfin, ce texte de Paul, où il dit, mais regardez parmi vous, chrétiens, en fait, est-ce que le Seigneur est allé choisir des grands orateurs, des grands rhéteurs, des grands psychologues ou des grands diplômés? Non. Il aime, il se plaît à travailler avec les humbles de ce monde pour venir dérouter, désarçonner les grands et les puissants de ce monde. Un royaume un peu à l'envers. Voilà, un royaume à l'envers. Donc, ce matin, je voulais parler de cette question de l'humilité. Et c'est vrai qu'il faut tout de suite commencer par distinguer l'humilité de l'humiliation. Parce qu'on connaît tous quelqu'un, on se dit dans l'Église, qui aurait besoin d'une bonne leçon d'humilité, qui aurait besoin de s'humilier devant le Seigneur, mais je suis sûr que vous en connaissez tous aussi. pour qui le grand souci, c'est plutôt de recouvrir une vraie estime d'eux-mêmes, une vraie relation à eux-mêmes, de se respecter et de savoir poser des limites avec les gens qui les entourent. Et on se dit, non, ben c'est peut-être pas s'humilier devant le Seigneur dont il a besoin. S'humilier devant le Seigneur n'est pas quelque chose de négatif. Mais nous, on a tous connu des moments d'humiliation dans notre vie. Ce moment où quelqu'un, par ses mots, par son attitude, va nous rabaisser. Et vous serez tous d'accord, je pense, pour dire que ce n'est pas toujours pour notre bien qu'ils le font. Voire même parfois on a un certain plaisir à manifester qu'on peut dominer l'autre par son langage, par sa force. Ce jeune dans son lycée en sait quelque chose, puisqu'apparemment c'est une arène où il faut justement monter sur les autres à travers des tacles bien sanglants de mots et de paroles. On a tous connu cette humiliation, elle nous a rarement fait du bien. Elle a rarement été faite dans la bienveillance. Et si on s'imagine que venir devant Dieu pour s'humilier, c'est vivre quelque chose de cet ordre-là, on se trompe 3 fois. Une première fois, on se trompe parce que, à la différence de n'importe qui d'autre, Dieu n'a pas besoin de nous marcher dessus pour s'élever. Je ne vois pas combien de centimètres de hauteur en gloire il pourrait prendre à nous mépriser. Peut-il être plus haut que ce qu'il n'est déjà? A-t-il réellement besoin, pour son estime personnelle de lui, de marquer sa supériorité par rapport à nous? Non. Donc déjà, on n'a pas à craindre ça en s'approchant de Dieu. Ensuite, Dieu est profondément bienveillant, Paul le dit, il nous a donné le Christ pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Si on s'approche de Dieu, est-ce que lui va trouver une joie, un plaisir à nous rabaisser alors qu'il est bienveillant? Non. Deuxième certitude. Et une troisième certitude, peut-être la plus délicate à saisir. En fait, l'humilité est le sentiment, la disposition intérieure qui nous permet de rencontrer ce qui est plus grand que nous. Prenons un exemple, je sais pas, dans votre tête, vous imaginez de rencontrer quelqu'un de très célèbre ou de quelqu'un de très influent qui vous impressionne. Quelqu'un, voilà, vous seriez bouleversé d'avoir l'opportunité de passer un moment avec elle, de la rencontrer, de, je sais pas, vous prenez le train et vous vous retrouvez à côté d'une star ou d'un politicien, etc. Vous êtes subitement en présence de quelqu'un, entre guillemets, d'important. Votre humilité va vous pousser en fait à chercher à bien saisir le moment et de vivre, de recevoir quelque chose de cette personne, de saisir l'opportunité d'être à côté d'une telle personne pour en tirer, en apprendre quelque chose, y vivre un moment important. Et cette humilité vous permet de considérer que ben, lui ou elle a quelque chose à vous apporter, à vous enrichir, etc. Vous êtes à côté d'un grand professeur ou d'un écrivain illustre ou d'un penseur illustre ou d'un médecin illustre. Votre humilité vous pousse à chercher à vivre ce moment à l'écoute, en étant réceptif, en étant disposé à ce que cette personne peut vous apporter, peut partager avec vous. Qu'en est-il de Dieu? Quelle proportion d'humilité me faut-il pour considérer la personne qu'il est? Si je cherche à rencontrer Dieu sans humilité, on le fait tout le temps. On débarque dans le bureau de la prière, sans bonjour, sans rien, avec nos revendications. Seigneur, ça va pas! Et on ne prend pas le temps de considérer un instant dans quelle présence nous rentrons. Et pourquoi nous pouvons faire ça? Parce que nous avons une telle familiarité avec le Seigneur, une telle habitude, et il a une telle disponibilité. Comment vivre cette relation d'humilité avec celui qui tient le cosmos entre ses mains, mais dont je me sens plus proche qu'un pote, qui a plus de patience, de bienveillance et de disponibilité envers moi que le plus proche de mes amis? Comment réussir à vivre ce paradoxe de rentrer dans la présence du Dieu transcendant et infini, qui pourtant s'implique dans les moindres de mes petits soucis? Quand nous sommes dans l'égarement, quand nous perdons les pédales, quand nous perdons pied, notre instinct nous poussera à aller chercher le Dieu pote. La Bible nous encourage à nous humilier devant le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire la carpette? Non. C'est plutôt remettre Dieu à sa place, tout en haut. Et pourtant, il ne cesse pas d'être ce pote, entre guillemets bien sûr, ce Dieu proche, ce Dieu intime. Les théologiens parlent d'immanence de Dieu, sa capacité à être tout à fait présent à nous, tout de suite, maintenant, et en même temps, d'être si grand et si infini. Et quand je perds pied, j'ai besoin, ce que nous disent les Écritures, de rencontrer tout à nouveau le Dieu immense. Mais pas facile, on n'arrive pas bien à se le représenter, on n'arrive pas à en voir les contours, on n'arrive pas à se représenter dans la tête quelque chose d'assez grand pour le saisir, s'humilier devant Dieu. Qu'est-ce que cela nous apporte de s'humilier devant Dieu ? Subitement, cette relation intime que nous avons avec le Seigneur, cette façon que nous avons de venir lui déballer nos soucis, nos problèmes, lui faire part de nos demandes. On se trouve très gonflé. Mais on n'a pas peur pour autant parce qu'il nous a vraiment fait grâce. On l'a vu la semaine dernière. Je suis vraiment restauré, je suis vraiment sauvé. Je ne suis pas en période de probation. Je ne suis pas sauvé jusqu'à la prochaine bourde. Je ne suis pas sauvé à condition que le Seigneur m'a pardonné mes péchés passés, présents et futurs. Il m'a purifié. Je peux être dans sa présence sans rien craindre réellement pour toujours. Et contempler cette relation mystérieuse, miraculeuse, moi et le Dieu infini, ça laisse un peu interdit, ça laisse un peu bête. Mais si j'ai une chose à en conclure, c'est que Dieu m'aime. Si vous prenez le temps de considérer le Dieu qui trace l'histoire et qui a décrit la trajectoire des planètes et de chaque élément du cosmos, qui se soucierait de moi, qui existe au 21e siècle, un humain parmi des centaines de milliards qui ont vécu sur cette terre, comment se fait-il que tu considères, Seigneur, que je sois un interlocuteur intéressant, que tu veilles avoir cette relation intime, proche, complice avec moi? Mais que me trouves-tu? Si je crois les paroles de l'Écriture, il a envoyé Christ pour mourir sur la croix afin que lui et moi soyons définitivement réconciliés. C'est donc qu'elle m'aime. C'est le premier effet de la grâce. Mais il y a un deuxième effet qui se coule de la grâce, que j'ai abordé à l'étude biblique du mardi, et donc je vais faire un peu de répétition pour ceux qui étaient là, parce que je trouve vraiment intéressant de le présenter, et que ça nous amène vraiment sur le chemin de la véritable humilité. Alors, avant d'aborder le deuxième effet de la grâce, je veux parler de la véritable humilité. Donc déjà, par rapport à Dieu, on voit que ce n'est pas moi m'abaisser autant que l'élever lui. Et c'est important. Quand je viens m'humilier devant Dieu, ce n'est pas tant à moi de m'abaisser plutôt qu'à lui de le remettre à sa vraie place. Et pour ce qui est de l'humilité, on peut regarder à notre Seigneur, Jésus, puisque lui, il a l'audace de dire « Regardez-moi, je suis humble. » Alors un jour, j'ai raconté à Camille que quelqu'un avait voulu m'apprendre ce que c'était que l'humilité en me montrant un exemple d'humilité. Et ça l'a fait rire. Parce que quand quelqu'un vient te voir et dit « Je vais te montrer ce que c'est que l'humilité », c'est un peu comique, quoi. Mais Jésus, lui, il dit « Je suis doux et humble de cœur. » Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Portez mon joug, car mon joug est doux et léger. Je suis doux et humble de cœur. » Jésus est humble. Et pourtant, quelqu'un vient se jeter à ses pieds et se prosterne et l'adore, et Jésus, il accepte qu'on se prosterne à ses pieds et qu'on l'adore. Quelqu'un lui dit « Tu es le Seigneur et le Maître. » Et Jésus dit « Oui, tu as raison, je suis le Seigneur et le Maître. » Et pour nous, l'humilité sous-entendrait qu'il refuse ce genre de marque et de reconnaissance. Pour nous, quelqu'un de humble refuse des lauriers ou de la gloire, n'est-ce pas ? Jésus nous montre que la véritable humilité ne consiste pas à essayer de rester en bas, mais d'avoir sa vraie place. Et quand on dit que Jésus, tu es Seigneur, et qu'il répond, ben oui, il est humble parce qu'en fait, il accepte la vérité. Et quand quelqu'un est en train de vous faire un compliment et que vous dites, non, c'est pas vrai, alors que vous pensez effectivement mériter ce compliment, vous pratiquez ce qu'on appelle la fausse humilité, qui est une forme subtile d'orgueil en fait. Parce que nous on est capable d'être orgueilleux de notre modestie, c'est ça qui est formidable. Alors la véritable humilité ne consiste pas donc à se maintenir dans une illusion de bassesse alors qu'au fond de nous on se trouve super. La véritable humilité consiste à avoir un juste regard sur soi. La véritable humilité consiste non pas à cesser de vouloir être grand, mais à cesser de vouloir être meilleur que les autres. Je suis humble quand en fait je suis en paix avec qui je suis, et avec qui j'étais et qui je deviens. Et là, pour parvenir à ce chemin-là, la grâce de Dieu, cette humilité à laquelle il veut forger son peuple, cette humilité à laquelle il nous appelle dans les béatitudes et à laquelle l'apôtre Paul nous exhorte, nous pouvons la chercher avec le deuxième effet de la grâce. Quel est-il ? Premier effet de la grâce, donc, je me sais aimé de Dieu, comme je suis, quoi que j'ai fait, d'où que je vienne et où que j'aille. Le deuxième effet de la grâce, c'est que cette certitude-là va me permettre d'aller fouiller mon cœur. Qui connaît la profondeur du cœur humain ? Pourtant, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense vient de ce fatras, de cette accumulation de 40 années de joie, de peine, de bonheur, de blessure, de honte, d'orgueil, d'ambition, de peur, de traumatisme qui se sont joyeusement accumulés, transformé par la sédimentation en pierre, et voilà tout ce que je suis. Et vous savez combien ça peut être difficile, voire douloureux, voire effrayant, de descendre là-dedans. Parce qu'on découvre un peu qui on est. Et en général, on ne fait que effleurer la surface. Mais la grâce, c'est cette corde qui va me permettre de descendre dans mon cœur et qui me dit « Je t'aime quoi qu'il arrive, quoi que je trouve, quoi que tu découvres sur toi-même, quelles que soient les désillusions que tu perdes, les grandes vérités que tu découvres, je t'aime comme tu es. Mais jusqu'où elle peut descendre cette corde ? Ça dépend de votre foi. La longueur de la corde, c'est la force de votre foi. Plus vous avez la certitude que Dieu vous aime inconditionnellement, plus vous serez capable d'aller loin. Plus vous tenez ferme la promesse de Dieu, plus vous pourrez aller regarder ce cœur. Et dit comme ça, ça paraît un peu dur et... Mais en fait, quel est le fruit de ça ? Le fruit, c'est une immense liberté. Une immense liberté vis-à-vis de qui je suis. Et cette immense liberté va nous donner la véritable humilité. Qui je suis en paix parce que Dieu m'aime. Et ces défauts que les gens voient chez moi, ben en fait, je les connais très bien. Et je ne serai pas en honte ou en culpabilité ou en train de me battre la coule par rapport à eux parce que j'ai la certitude d'être aimé par le Seigneur. Alors on dira, oui, bah du coup, en fait, ça devient une excuse, quoi. J'ai mes défauts, oui, mais bon, écoute, le Seigneur m'aime. T'as quand même aimé aussi comme le Seigneur m'aime. Non. Parce que le regard que le Seigneur nous donne sur ces choses qu'il trouve en nous, c'est pas un regard « Oh, mais c'est pas grave. » Non, c'est un regard très juste et très lucide. Ce qui fait que, en fait, de donc perdre nos prétentions sur ces choses-là. Mais on va pas être complaisant ou on va pas en faire ce qu'on appellerait des péchés mignons. Simplement, changer notre rapport à nous-mêmes. Et mon expérience, c'est que plus on regarde qui on est comme ça avec les yeux du Seigneur, et plus ces choses qui sont difficiles ou douloureuses ou blessantes pour nous s'estompent, guérissent, retrouvent leur place, presque sans que je fasse rien. Mais juste parce que, avec les yeux du Seigneur, je les considère pour ce qu'elles sont. Alors qu'avant, je leur trouvais des excuses, alors qu'avant, je ne les voyais même pas. Et donc cette spéléologie intérieure que je peux faire grâce à la grâce, parce que je me sais aimé, va amener chez moi ce que nous appelons, nous les chrétiens, la sanctification. Pour être franc, j'ai croisé pas mal de chrétiens qui s'arrêtent au premier effet de la grâce. Cette grâce qui, ok, m'arrache du royaume de Satan pour me plonger dans la lumière du Christ. Et voilà, je suis sauvé, je n'irai pas en enfer. Mais ce n'est pas le but, c'est le moyen. Le but, c'est d'être un enfant de Dieu parmi les hommes et les femmes. Le but, c'est de devenir un arbre de vie dans ce monde de ténèbres. Le but, c'est d'être une lumière. Le but, c'est pas que j'ai mon ticket d'entrée. Le salut n'est pas une récompense. C'est le moyen par lequel je deviens un disciple. Un vrai disciple, une vraie source de joie et de guérison pour ce monde, comme mon Seigneur, comme le Christ. Et pour devenir ça, il faut me laisser aimer par Dieu. Et oser aller regardez qui je suis avec le regard d'amour du Seigneur. Et je vous promets, ça peut être très décapant, mais ça range le cœur, ça range la vie, ça range les pensées et ça libère. Alors voilà, je vais relire les béatitudes qui nous paraissent... À la fois inadapté à ce monde et à la fois un peu bisounours, mais qui pourtant en fait sont Moi, j'appelle ça le programme politique de Jésus. À quoi va ressembler son royaume? Eh bien, prenez les béatitudes. Et après, je vais prier. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Prions. Seigneur, dans notre monde, l'humiliation est un moyen de domination. Et certains, Seigneur, en sont captifs et n'arrivent pas à relever la tête, n'arrivent pas à vivre avec une bonne estime, un amour pour soi, une considération pour qui ils sont. Et ils ne posent pas les limites, ils ne sont pas respectés, ils se font piétiner, ils ne savent pas se préserver. D'autres, au contraire, Seigneur, sont dans l'arrogance. D'autres trouvent leur plaisir dans le fait de dominer. Seigneur, tu nous appelles, nous, à te ressembler et à trouver ce chemin vers l'humilité. Réapprends-nous, fais-nous redécouvrir cette humilité face à toi, de te considérer dans ta grandeur. Révèle-toi à nous. Émerveille-nous de cette intimité, de cette proximité qu'on peut avoir vis-à-vis de toi, de cette disponibilité que tu nous accordes et en même temps, rappelle-nous que tu es le créateur du cosmos. Tu n'es pas un petit dieu portable de poche. Tu es le maître de l'univers. Étourdis-nous, Seigneur, de cette réalité afin que nous sentions cette première humilité. Ensuite, Seigneur, conduis-nous à cette humilité de cœur où on retrouve sa juste place, où nous construisons une réelle estime de nous-mêmes, où nous ne cherchons plus à être au-dessus ou au-dessous des autres, mais nous cherchons juste à être nous-mêmes face à toi et là où tu nous veux. Et alors Seigneur, que nous puissions tout un chacun entreprendre cette spéléologie du cœur, où tu nous emmènes, où ta grâce nous préserve, où ta grâce nous sert de corde de relais pour aller voir qui nous sommes au fond de nous-mêmes, avec cette assurance que tu nous aimes de toute façon, puisque ce cœur-là, que nous peinons à explorer, dont nous ne mesurons pas la profondeur, toi, tu l'as déjà visité de fond en comble, chacun d'entre nous. Tu nous as tous sauvés, tu nous as tous pardonné nos péchés en pleine connaissance de cause. Il n'y a rien en nous que tu pourrais découvrir et dire « Ah, je ne savais pas ». Non, tu sais tout. Et tu peux nous accompagner, Seigneur, à explorer qui nous sommes pour trouver cette véritable humilité, mais aussi cette véritable liberté dans ta présence. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Seigneur, rends-nous libres. Amen.
Pour la prière d'intercession, je vais inviter Gilles et Frédéric à venir m'accompagner, nous accompagner dans la prière d'intercession. Je terminerai moi-même par le Notre Père.
Seigneur, Nous te prions, Seigneur, pour que tu essaies de calmer ce monde en folie. Nous te prions pour qu'il redevienne à ton image et comme tu l'as créé, plein d'amour, de lumière, de bonté. Nous te prions, Seigneur, pour que tu protèges les enfants qui souffrent, les enfants ukrainiens qui ont peur sous les bombes, les enfants ouïghours persécutés par le gouvernement chinois, les enfants des pays asiatiques exploités pour que nous puissions faire notre jogging dans des baskets à plus de 100 euros, les enfants africains obligés au péril de leur vie de travailler dans des mines de métaux rares pour fabriquer des voitures électriques que la plupart d'entre nous ne pouvons même pas nous payer. Nous te prions, Seigneur, pour que les spéculateurs voraces cessent de faire monter les prix et de ce fait rendre les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Nous te prions, Seigneur, pour que les milliardaires aident leurs prochains plutôt que d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Nous te prions, Seigneur, pour que, comme conseillé dans les Saintes Écritures, chacun d'entre nous essayons de réduire la taille de nos greniers. Nous te prions, Seigneur, pour que tous nos SDF trouvent un toit pour l'hiver, pour que Hamar, Vauverdois, ne soit pas expulsé à cause d'un imbroglio juridique. Nous te prions, Seigneur, pour que tu aides tous ceux qui souffrent, atteints par la maladie, la vieillesse. Merci, Seigneur, de nous guider, de nous accompagner, de nous prendre par la main pour que nous cheminions vers ta lumière. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous, de faire de nous des personnes meilleures. Merci d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions recevoir et rendre tout ton amour. Merci, Seigneur. Amen.
Bonjour à tous. Voilà, c'est ma première prière d'intercession publique. Donc, je n'ai pas forcément les formules d'usage, mais je vais faire un peu à mon idée. D'abord, paix et bénédiction pour notre pasteur, qui conduit si bien ses brebis sur le chemin du Christ, et également pour sa famille. Que sa mission soit comblée de grâce. Que les activités de cette église, et pas seulement le dimanche, portent des fruits spirituels abondants. Que ceux qui ont une foi solide ranime la flamme de ceux qui ont une foi vacillante, et surtout que de nouvelles âmes s'ouvrent au Christ afin de faire partie du bon grain lors de la moisson finale. Que les prières des malades et pour les malades dans cette église soient entendues par le Seigneur et les vœux les plus intimes exaucés. Prions aussi plus généralement pour que les chrétiens déjà unis en Christ le soient également dans une seule et même église enfin rassemblée. Que le Seigneur continue à inspirer nos dirigeants locaux afin que Vauvert continue à être une ville agréable où il fait bon vivre. Pour les autorités nationales, c'est une autre affaire. Qu'elles aient enfin la sagesse et l'humilité de ne pas imposer au peuple français ce qu'il rejette massivement. Les nuages de la colère populaire s'accumulent et l'orage s'apprête à éclater. Fais en sorte, Seigneur, de nous préserver de toute forme de violence et que les problèmes sociaux graves trouve un mode de résolution pacifique et plus généralement que la France redevienne enfin heureuse de sa destinée. Amen.
Je vous invite à vous lever et de prier tous ensemble dans le même cœur la prière que nous a enseignée le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a un dernier chant, je crois. Je ne me rappelle plus, Gilles. Et après, Tim nous fera l'envoi et la bénédiction.
Voici mon commandement, dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé moi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne comprend pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que la paix, la joie et l'amour de Dieu rayonnent dans vos vies et vous donnent d'être une source de bénédiction pour tout ce qui vous entoure. Soyez bénis. Amen. Bon dimanche.